De retour à On a des choses à dire, présenté par Lucien Day, le Parizeau cabinet d'assurance, Meubles-André Beaulieu, le comité des usagers Pierre de Sorel et le magazine Contact Affaires.
Alors, un sujet qui, justement, a intéressé beaucoup les gens de Saint-Ours, un peu moins les gens de Yamaska, mais on va en parler justement avec les deux principaux intéressés qui ont insisté beaucoup auprès des ministères concernés, je pense, pour que ça se réalise. Ben, c'était pas évident, ça a été réclamé à grand cri par les populations. Et puis, finalement, ben, ça s'est réalisé. Deux soirées d'information sur la politique regardant les glissements de terrain. Monsieur Gilles Salva, préfet de la MRC.
Bonjour.
Jean-François Dauphinet, qui est coordonnateur à l'aménagement du territoire.
Bonjour.
Bonjour, messieurs. Alors, comment ça s'est déroulé? D'abord, parlons de Saint-Ours. Êtes-vous surpris de l'engouement, ou en tout cas la réponse des gens aussi généreuse?
Bien, premièrement, il faut préciser, c'est pas nécessairement la demande des gens. Les gens, faut pas confondre l'érosion, les zones inondables et les glissements de terrain.
Okay.
C'est trois affaires complètement différentes. Et le ministère avait mandaté, le gouvernement avait mandaté le ministère des Transports pour faire de nouvelles cartes de glissement de terrain. Okay. Il y en a eu, si on se rappelle, à Saint-Roch, là, une maison qui a passé proche de tomber dans le Richelieu. Il y en a eu à Saint-Ours, je crois, des...
Mais Yamaska aussi.
Surtout Yamaska, Saint-David et Saint-Amand aussi également, qui ont eu des glissements de terrain. Fait que tantôt, Jean-François pourra vous expliquer les modes qu'on pris. Mais ces cartes-là datent des années, je pense, 80.
Okay.
80 quelques années. Fait que c'est le ministère des Transports qui a été mandaté pour faire des nouvelles études pour aller voir les sortes de terre et la possibilité des glissements de terrain ou ce que ça peut être dangereux, si on veut, suite au talus. Mais faut pas confondre avec l'érosion, faut pas confondre avec inondables.
Mais l'un va pas avec l'autre dans le sens où l'érosion n'est pas un phénomène qui aggrave la situation des terrains qui sont en danger.
Oui, ça, je suis un peu d'accord, là. Je peux laisser Jean-François, mais je suis un peu d'accord que zone inondable et érosion, des fois, peuvent provoquer.
Ah oui.
Mais ça va être des glissements de terrain en bas de en bas de côte, là, c'est la plus minime. Les vrais glissements de terrain qui partent en hauteur des tahus, là, où ce que souvent, mais c'est l'eau
qui
sont de pluie.
Plus au niveau des routes, là.
Ouais, exactement. Puis c'est là que le ministère des Transports, pour ça, qui a été interpellé là-dedans. Okay.
C'est ça. Si on regarde là, le cadre normatif et les cartes, là, c'est vraiment beaucoup au niveau des mauvaises interventions qu'ils peuvent avoir en surface. Là. Qu'on parle de déblais, concentration d'eau au sommet des talus qui peut provoquer des glissements de terrain. Plus que l'érosion, c'est que ce qui arrive, c'est que là, on est au niveau du cours d'eau qui n'est pas la propriété de la personne, souvent finie au niveau du cours d'eau. On est une autre juridiction.
Mais je me souviens qu'on a beaucoup parlé à une certaine époque du manquement que certains propriétaires riverains pouvaient avoir là, en fait de protéger la rive en enlevant des arbres qui sont quand même, avec leurs racines, là, soutiennent et retiennent le terrain et quelque part les protègent contre ce genre de phénomène.
Effectivement, mais là c'est sûr que là dans ce cas-ci, ce qui était dans les glissements de terrain dans le cadre normatif, là, c'est vraiment pour s'assurer des... parce qu'il faut comprendre, avant, ce qu'on avait au schéma d'aménagement, c'était des cartes qu'on appelait des cartes de... Avant, il y avait appelé ça des cartes des zones à risque. Mais là, le principe de la carte, actuellement, c'est une zone de contrainte. Ce qu'il faut comprendre, c'est pas une carte de risque. C'est pas parce qu'on est avec une zone sur son terrain qu'on va nécessairement avoir un glissement de terrain. Le but de la carte étant de dire... Cette portion de terrain-là est a des caractéristiques géomorphologiques et compagnie qui permettent de dire, bon, ben, il peut probablement y avoir un glissement de terrain. Le cadre permet de dire, bon, ben, dans ce cas-là, il faut peut-être, quand c'est le temps de faire du remblai, réfléchir à demander à un spécialiste de dire quelle épaisseur, si oui, si non. Puis ensuite, c'est de jouer sur, au-delà de ça, de jouer sur la vulnérabilité des choses, de dire, bon, ben, si le bâtiment est placé à une distance sécuritaire, si le glissement arrive, on a moins à s'inquiéter comme tel.
Okay. Est-ce que... vas-y.
Ben, en fait, donc ça, cette réglementation-là, ces nouvelles cartes-là sont effectives. Le gouvernement les a rendues effectives. Et là, on s'est rendu compte que ça suscite beaucoup de questions. Moi, si j'avais un terrain avant qui se retrouve maintenant en zone sujette à glissement de terrain, et la même problématique se vit en zone inondable, qu'est-ce qui arrive?
Premièrement, tu vas t'adresser à ta municipalité. Avec ton numéro de lot de terrain, on va être capable, soit à l'inspecteur municipal ou Jean-François à la MRC, qui, mettons qu'il y a plus les informations, de te renseigner, de dire, voici, en haut du tahut, derrière ta maison, tu peux te faire une remise. Là. Il y a des mesures qui sont indiquées. Okay. Mais si le gars veut, il veut défaire sa maison ou l'agrandir vers l'arrière, puis tu tombes dans la zone de contrainte, là, ça va être non. Là, ça te prendrait un ingénieur qui va te garantir la qualité du sol. C'est un peu ça qu'on peut okay. dire, tu sais, dans nos mots, pour que le monde comprenne bien. Mais si tu as une piscine existante, puis elle est désuète, tu la remplaces par une pareille, il n'y a pas de problème.
C'est comme un droit acquis.
Oui, il y a comme des droits acquis. Les nouvelles constructions, naturellement, devront respecter les distances. Là, peut-être vont s'éloigner un petit peu du talus, là, de la rivière ou de la côte. Mais c'est tout simplement pour la sécurité des gens, justement.
Est-ce
mais
que ça les joue sur la valeur de la maison?
Non, ça, ils nous ont garanti avec... j'ai oublié son
personne,
nom.
Personne de la sécurité civile, là, eux, ont fait faire une étude là, à Ville-Saguenay, là, dans un secteur, là, 1500 résidences qui étaient touchées là, par des zones de contraintes. Là, et l'étude a révélé là, qu'il n'y avait pas eu de perte de valeur, même parfois là, des hausses. Là,
Est-ce qu'il y avait une grosse différence avec est-ce que l'exercice en valait la peine? Est-ce qu'il y avait une grosse différence entre le plan tel que présenté dans les années 80, comme tu disais tantôt, Gilles, ou celui-là qui a été présenté maintenant?
Oui,
ça change beaucoup?
Ben, il y a des modifications, beaucoup, Jean-François répondra, mais c'est que qu'est-ce qui arrive, ce qui est plus précis. Fait que des fois, ton terrain t'as presque pas touché ou ton voisin il l'était pas, puis là, il vient d'être englobé. Puis il y a des secteurs, par contre, c'est moins. Il y a moins de restrictions parce que avec les données du LIDAR, etc., là, je ne me rappelle plus les spécialistes, les tests de sol, la sorte d'argile qu'il y a, mais tu peux être moins restreint, ta zone peut être moins grande, moins dangereuse, plus dangereuse. Mais l'important, c'est que c'est pas pour tous les droits acquis qu'est-ce qui est existant. C'est pour l'avenir, pour pas que le gars, je sais pas, le propriétaire, pour une raison telle qu'on, il s'en va au bout du tahut, fait charrier de la terre, il coule du béton, puis il se fait un beau gros garage. Mm. Si dans 5 ans, le garage est rendu en bas de la côte, il va dire, vous m'avez donné un permis de construction. Dans le fond, c'est pour le prévenir.
C'est un fait qu'il faut surveiller ce que le voisin fait aussi, parce que...
Ben oui,
écoutez, si c'est avant. L'existement n'a pas de limite, chances, là. Ça n'arrêtera pas. Non, c'est pas
ça, chez nous,
la même
là.
Propriété. Mais effectivement, les changements, quels sont-ils? Puis comment on peut aller être plus précis maintenant? Là, je comprends bien qu'il y a des avancements technologiques sûrement qui sont impliqués. Mais là, quelle est la différence majeure là, entre les deux exercices?
Mais on a pu le voir. Justement, c'est ce qui explique un petit peu le fait que pour le secteur de la Richelieu, il y a eu plus de gens qui se sont déplacés. C'est qu'au niveau de la Yamaska, le ministère avait déjà fait des cartes dans les années 80. Fait que depuis 1980, ils ont déjà des contraintes, puis il y avait déjà un cadre normatif qui était plus sévère que ce qu'on vient d'adopter maintenant. Il y a des assouplissements qu'il n'y avait pas. Fait que les gens sont habitués de travailler avec les cartes. Et ce qui a été montré, ils l'ont montré hier à Yamaska, la différence, elle est simplement surtout au niveau de l'épaisseur des fois des zones et qui ont ajusté les longueurs comme telles. Mais on voit que la carte qui avait été faite en 80, la méthodologie était bonne. Mais les outils qui permettaient d'établir la carte étaient moins bons. Comme il disait, c'est qu'un trait de crayon sur la carte équivaut à c'était 10 ou 20 mètres sur le terrain. Fait que sur une carte, tu fais juste un trait puis tu dis à la personne, c'est là, ben c'était 10 mètres à côté, sur un terrain de 30 mètres, ça va vite.
Effectivement. Puis il y a la différence majeure que je vois là, comme ça, rapidement, par l'expérience, pour avoir vu les rives de chacun de ces endroits-là. Du côté de Yamaska, c'est souvent étagé aussi. Les terrains sont pas...
Oui, puis c'est plus... l'argile est plus... plus d'argile, plus de laiseux, là, qu'on appelle dans nos mots communs, qui est pas pareil, mettons, dans le secteur Saint-Roch, Saint-Ours, où il y a des secteurs plus sombleux. Les côtes sont plus prononcées, mais sont peut-être moins... moins visé.
Je comprends. Je vous ai posé une question tout à l'heure sur la valeur des maisons. Les assurances, est-ce que ça a un impact sur les assurances?
Non, c'est vrai qu'on nous a dit que non, mais c'est mieux de quand même de préciser, d'aller à la municipalité, de dire oui, on l'est ou non, on l'est pas. Mais s'il arrive un sinistre, là, qu'on ne souhaite pas à personne, naturellement, c'est la sécurité civile qui nous prend en main, là. C'est comme les inondations. Là.
Et tes assurances de maison, ça n'a pas d'impact?
Non, ça vous a été garanti. La valeur des maisons, ça n'a pas d'impact. Puis les assurances non plus, mais comme tout bon assureur, faut qu'il soit avisé. Ouais. Parce que si c'est minime, là, si la remise est bien située et réglementée, À ce moment-là, si c'est la couverture qui fait défaut, elle va être assurée pareil. Là. Mais si y a un glissement de terrain majeur, là, c'est la sécurité civile.
Il y a eu captation de cette au moins une des deux soirées d'information qui, de toute façon, véhiculait à peu près la même information. Est-ce que ce document-là sera accessible aux gens qui pourraient avoir encore des questionnements là-dessus qui n'ont pas pu se présenter aux soirées?
Oui, effectivement. Ce qu'on viserait à faire, c'est probablement une section là, sur le site de la MRC. Là, on va faire une boîte à outils. On va aussi mettre tous les documents ministériels pour aider à déchiffrer la carte, comprendre. On a aussi un document là, qui a été produit là, par le Bureau des assureurs du Canada là, qui explique justement là, toute la question des assurances maintenant qu'on est en zone de contrainte. Tout ça va être disponible dans une boîte à outils là, prochainement, puis les municipalités là, pourront transmettre le lien aussi sur leur site.
Il n'y avait rien d'alarmant, j'imagine, dans ces présentations-là. Parce que
pour répondre un peu aux gens, surtout les préoccupations que les gens de Saint-Ours, Saint-Roch, Sainte-Victoire ont eues, ils nous ont parlé beaucoup de la vitesse des bateaux puis de l'érosion, ce qu'on a discuté tantôt, qui est un autre dossier quand même. Je tiens à les remercier parce que ça nous a alimenté à dire, écoutez, il faut aller, mais c'est sous juridiction fédérale.
Ouais.
Fait que je tiens à le préciser que les maires, on va parler à nos voisins des autres MRC qui vivent les mêmes problèmes, parce que les bateaux, on va dire, qui vont à grande vitesse, créent de l'érosion, ça crée des problèmes. Puis aujourd'hui, avec l'environnement, on peut pas aller remblayer avec quoi qu'on veut sur le bord du Richelieu. Fait que je les comprends, mais je veux les rassurer que j'ai parlé avec quelqu'un du ministère des Transports, justement, puis on va travailler, Jean-François va être en contact avec eux autres, puis on veut faire pression, mais ça, c'est au côté du fédéral, et à ce moment-là, ça donne bien, on est en période électorale, fait que celui qui nous représentera au fédéral, mais ça va être un mandat qu'on va y dédier d'aller voir
ça fait partie de votre liste d'épicerie.
c'est ça. On allonge la liste d'épicerie.
Mais certes pas un dossier facile non plus, parce que l'érosion des berges, contrôler les vagues...
Oui, c'est ça. C'est pas facile. C'est pas comme une zone comparée à Saint-Anne-de-Sorel, puisque Saint-Anne-de-Sorel, c'est dans les chenaux, c'est donc plus municipal, tu sais.
Ouais.
Quand on parle du Richelieu, c'est la voie navigable, puis c'est le fédéral.
Si j'ai une question à poser au préfet, si on parle du PEPS, le parc éolien Pierre de Sorel, il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles de chèque.
Tout va très bien. Ouais. On attend le chèque de 2018. Okay. 2017, si on se rappelle, c'est plus d'un million là, que les 12 municipalités se sont partagées. C'est pratiquement on va dire le brouillon. José, la comptable, est justement dans les chiffres, dans les papiers. C'est encore au-delà d'un million. C'est pratiquement identique, je crois, à 2017. Et on devrait avoir ça naturellement. Ce qu'on tient toujours, c'est quand on fait nos budgets pour l'an prochain, en novembre. Fait qu'on devrait avoir ça, d'après moi, au début octobre, en octobre.
Donc, ce qu'il faut se souvenir, c'est que quand l'automne arrive un peu avant les fêtes, c'est là que le chèque arrive.
Oui, oui. Okay. Et cadeau, naturellement, nous avec, les gens nous dressent une liste d'épiceries.
Ouais.
Et il y a plusieurs dossiers à la MRC. On sait qu'il y a de plus en plus de responsabilités là, qui viennent de Québec et de nos gouvernements.
Il y a quelques secondes, juste en terminant, pour rassurer les gens qui s'inquiètent là-dessus, parce qu'on a reçu des courriels. Le budget lui-même, c'est un budget un budget équilibré. Là.
Pour 2000...
Si le chèque dépend un peu de la bonne gestion des opérations.
Oui, ben 2019 est semblable à 2018. C'est sûr, naturellement, le chèque des éoliennes de 2018 avait été appliqué au budget 2019, mais il avait été remis aux municipalités. Fait que à la MRC, on s'en tient pas mal. Souvent, écoutez, on vit avec le coût de la vie comme tout le monde. On va se mettre au travail, il y a un comité de suivi budgétaire, après ça, c'est approuvé par les 12 maires. C'est toujours en fin novembre qu'on adopte le budget.
OK.
Bon, regardez ça. On va suivre ça avec attention. Merci beaucoup, messieurs.
Merci à vous.
Jean-François Dauphinet, Gilles Salvat de la MRC de Pierre de Sorel. On parlait bien sûr de ces soirées d'information de glissement de terrain. Vous nous ferez parvenir les coordonnées. Enfin, j'imagine que ça va être facile à trouver sur le site Internet de la MRC.
Exact.
On s'arrête dans une pause. De l'autre côté, là, c'est le temps de parler de Monique Roberge.
On va parler inclusion.
On va parler d'inclusion sociale.
Oui. Yes.